France Inter, franceinter.com. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir, c'était il y a 20 ans déjà, ce printemps-là de 1989, un jeune ingénieur anglais remettait à son directeur de recherche un document intitulé, paraît-il, « Gestion de l'information », une proposition avec l'idée sous-jacente d'utiliser un système de liens hypertexte pour faciliter la communication et les échanges entre les scientifiques. Jugé un peu vague, mais prometteur, le projet recevait un feu vert qui devait, dès l'année suivante, constituer une petite révolution sur le réseau Internet qui existait déjà, avec l'apparition de trois petites lettres, www pour World Wide Web, autrement dit la toile à l'échelle du monde entier. Tout s'est accéléré, mais on a peut-être oublié les balbutiements des premières années, puisque en 1993, par exemple, le web ne représentait encore que 1% du trafic Internet total. À l'heure actuelle, on compte plusieurs centaines de millions d'utilisateurs dans tous les pays du monde et 216 millions de sites Internet en activité sur le réseau. Alors pourrait-on se passer du web aujourd'hui ? N'a-t-il généré que des avantages ou des avancées dans ce qu'on appelle la communication? Avait-on prévu sa formidable expansion, mais aussi les formes nouvelles prises dans la communication et les modes de vie? Et puis, comment va-t-il ou comment peut-il évoluer dans les 20 ans qui viennent? Peut-on savoir dans quelle direction s'orientent les recherches et pour quelles applications nouvelles? Voilà en quelques mots les question qui, Internet oblige, arrive déjà notamment sur le serveur du téléphone sonne, en direct avec nous pour dialoguer et pour vous répondre, bien sûr, comme chaque soir. Et je les remercie d'être là en ce lundi de Pâques. Dominique Volton, directeur de l'Institut des sciences de la communication au CNRS, qui a publié assez récemment « McLuhan ne répond plus, communiquer c'est cohabiter » aux éditions de l'Aube. Serge Habitboul, directeur de recherche à l'INRIA de Saclay. L'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique, qui a publié pour sa part un roman policier, et oui, sur l'univers du web, une hirondelle sur le web, aux éditions Studio. Et enfin, Patrice Flichy, professeur de sociologie à l'Université de Paris-Est, auteur pour sa part de « L'imaginaire d'Internet » et « Une histoire de la communication moderne », deux livres publiés aux éditions La Découverte.
Le téléphone sonne.
Alors je le disais, autant puisqu'on parle d'Internet, autant profiter du web. Plusieurs courriels sur le web tel qu'il existe actuellement, mais aussi tel qu'il est ressenti, nous sont arrivés. Patrick de Marignane écrit par exemple « Fantastique avancée des possibilités d'échange et de communication d'un côté, avec aussi des progrès technologiques majeurs ». Mais dans l'autre plateau de la balance, moi, je place les abus du web, le flicage même parfois, les mensonges véhiculés, bref, un tas de dérives. Alors, pour les intervenants, le bilan de ces 20 années de web, en gros 1990-2010, est-il plutôt positif ou plutôt négatif? Dominique Volton.
Oh, j'ai que c'est un peu le verre à moitié plein, à moitié vide. Voilà, ça dépend ce que vous cherchez. Aspect positif, liberté, possibilité pour les gens de se brancher, sentiment d'émancipation, curiosité, terrain d'aventure pour une nouvelle génération qui vient après la radio et la télévision, possibilité quand même de s'en servir aussi pour des luttes politiques d'émancipation contre les dictatures. Aspect négatif, évidemment, on l'a dit, c'est-à-dire informer, c'est pas communiquer. C'est-à-dire qu'au bout des machines, il faut bien passer à un moment de l'ordinateur à l'être humain. Et ça, l'être humain, c'est beaucoup plus compliqué qu'un ordinateur. Deuxièmement, personne ne vérifie, donc c'est un immense magasin à rumeurs. Troisièmement, la traçabilité est extraordinaire. Et curieusement, on a beau le dire, et les différentes commissions nationales informatique et liberté ont beau le dire, on n'entend pas, preuve qu'il ne suffit pas d'informer pour communiquer, parce qu'on les sait, les menaces sur les libertés privées et publiques, et par conséquent, ça ne passe pas, preuve quand on veut pas, quand le récepteur ne veut pas entendre. Donc, en gros, pour l'instant, c'est plutôt la dimension émancipation, liberté, créativité qui l'emporte, avec une immense difficulté à entendre les résistances, les problèmes, les questions de sociabilité, les questions de liberté publique, et tout simplement le question du fait qu'une société ne peut pas vivre avec l'information seulement. Il faut ensuite de la communication entre les êtres humains, et puis surtout, ça ne suffit pas. Je ne parle même pas des inégalités nord-sud qui existent, mais même si vous aviez 6,5 milliards d'internautes demain, ça ne changerait rien aux problèmes théoriques qui sont posés par... Alors, Internet pose une question très intéressante en histoire de la communication, c'est que ce n'est pas la première des techniques. Par contre, autrement la radio et la télévision, c'est très important le comparatisme historique, parce qu'on est focalisé sur ces 10-15 ans. Autant la presse écrite, la radio et la télévision ont suscité finalement beaucoup de réticences. Autant, dès qu'Internet est arrivé, ça a plu à tout le monde pour une raison très simple, qui est un des, si je puis dire, des péchés mortels de la pensée sur la communication, c'est que ça plaît parce que c'est individuel et on n'a pas aimé la radio et la télévision parce que c'est collectif. Or, il faut le rappeler, le rapport individuel à la communication que permet Internet ne peut exister que si préalablement il existe suffisamment de cohésion sociale dans une société. Autrement dit, si vous avez une société anomique, qui fout le camp dans tous les sens avec des risques de guerre civile, c'est pas Internet qui fait la cohésion sociale. Et puis pour prendre un dernier exemple politique, vous pouvez mettre autant d'ordinateurs avec autant d'Internet entre la Palestine et Israël, je prends par exemple ça pour ne pas prendre le Pakistan et l'Inde, c'est pas ça qui fera la paix. Donc la libre circulation d'informations, l'accès, le réseau ne suffisent pas à résoudre des problèmes politiques, même si pour une génération, c'est un fantastique sentiment de liberté. Mais si je puis dire, il faut qu'il retrouve une culture politique critique derrière.
Puisque c'était la question de Patrick de Marignane, quel bilan dressez-vous pour votre part, Serge Habitboul ?
Ben moi, je remarquerai surtout que ça a complètement modifié notre façon de penser, notre façon de vivre, notre façon de travailler. Ça modifie dans nos contacts avec les gens, notre façon d'appréhender nos rapports avec des associations, des groupes politiques. Donc, c'est un moyen considérable. C'est une façon de distribuer la connaissance, la culture dont on n'avait pas idée avant, qui change et qui bouleverse absolument tout. Évidemment, c'est très récent. Vous l'avez dit, c'est une vingtaine d'années. Donc, c'est évident que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser. Et il y a des réponses techniques, évidemment, qu'on va développer. Mais il y a aussi des problèmes qui sont des problèmes de société, des problèmes politiques qui sont importants. Mais on a un outil considérable. Donc moi, je serais extrêmement positif. Il faut apprendre à gérer tout ça. Mais c'est un outil à notre disposition qui est considérable.
Votre opinion à vous, Patrice Flichy. On boucle ce tour de table avec vous.
Pour boucler ce tour de table, donner quelques éléments complémentaires. Je crois qu'une des originalités considérables du web, c'est un cas où un travail scientifique développé dans le monde universitaire a basculé dans le grand public. Et ça, c'est assez rare, rapidement, finalement, sans passer par le monde industriel. Il y a un certain nombre de pratiques d'échange que les universitaires avaient réussi à mettre en place entre eux, circulation de l'information, qui ensuite se développe dans le grand public. Cette tradition de l'échange à structurer Internet, l'idée que tous peuvent poster de l'information, construire une information sur des sites. Peut-être que Wikipédia en est aujourd'hui la plus belle illustration, une grande encyclopédie qui est finalement non plus réalisée soit par des chercheurs professionnels, soit par des vulgarisateurs, mais réalisée par tous.
Anne, bonsoir, vous êtes dans le Languedoc-Roussillon. Bienvenue au téléphone sonne.
Merci, bonsoir.
On vous écoute, Anne.
Ok, mais je voulais témoigner simplement qu'il faut faire avec les outils modernes qu'on nous propose pour les rencontres. Moi, il y a une vingtaine d'années, pour rencontrer des gens, pour discuter, j'allais dans un bar, je me posais, je discutais. Et bien aujourd'hui, je ne vais plus dans un bar, je ne me pose plus, je ne discute plus. Je vais sur le net et sur les chats et je rencontre des gens tout pareils. J'ai statistiquement, je veux dire en termes de nombre, je garde le même nombre de contacts après tout ça et voilà.
C'est une façon après tout très fraîche et très quotidienne, très réelle de parler de ce que Dominique Volton appelait le lien social il y a 5 minutes. Oui. Dominique, on allait dans un bar et maintenant on va sur un site.
Oui, enfin, moi je conseille au bout d'un moment de sortir du site et quand même de rencontrer en chair en os les gens si vous voulez. Ce qu'on appelle les amitiés numériques, oui pourquoi pas, d'ailleurs ça prouve une chose en avance, c'est qu'un, les gens ont besoin de rapports sociaux, ils ont besoin de se rencontrer. Donc ça veut dire que quand même qu'il y a une solitude humaine extraordinaire, parce que c'est ça qu'il faut sans cesse rappeler.
Oui,
le système moderne est très individualiste, très solitaire. Donc au contraire, pourquoi pas ? À vrai dire, on a fait ça aussi avant avec de la radio, de la télévision. Il ne faut quand même pas exagérer. Ce n'est pas la première technique qui permet de se parler à distance et de rencontrer. Bon. Donc pourquoi pas, à condition de sortir de la technique et de s'apercevoir que finalement la vraie difficulté, ce n'est pas de rentrer en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde ou son voisin de palier, mais c'est être capable de construire des rapports humains ou des rapports sociaux, et ça, c'est plus compliqué. Donc, si vous voulez, attention à l'illusion de la technique qui suppose qu'elle peut gommer toutes les difficultés de la communication humaine ou sociale.
Patrice Fléchier, sur ce thème.
Oui, je ne crois pas qu'il y ait vraiment substitution. Hein. On ne peut pas dire que les gens oublient les contacts interpersonnels,
de se rencontrer
pour chatter. Hein. Ce que nous montrent les études, c'est que, d'une part, on utilise le net prioritairement avec les gens qu'on connaît par ailleurs, hein, d'une part, mais que dans un second temps, effectivement, et non plus le net, mais les sites web permettent d'accéder à des informations pointues ou sous les forums de connecter avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Et ces personnes peuvent être extrêmement distantes et notamment se trouver à l'autre bout de la planète. Donc il y a une complémentarité, hein, mais ne croyons pas que chacun reste chez lui à pianoter toute la journée devant son
clavier. C'est quand même plus facile.
Dominique Breton,
je suis tout à fait d'accord, bien sûr, mais c'est plus facile, hélas, de dialoguer par ordinateur interposé que d'affronter la question centrale de la vie, qui est d'être capable de construire un rapport avec autrui. Voilà.
C'est ce que font remarquer aussi beaucoup d'internet, qui disent pas c'est blanc, c'est noir. Effectivement. Il y a un juste milieu. J'ai dans les mains le courriel de Frédéric à Roubaix. Chacun devant son PC ou son mobile à la main, un interlocuteur facile à 18 000 km. Avant, c'était un peu l'inverse. On n'était pas replié sur soi. Il y avait l'agora ou le forum, mais juste pour le village, pas le village mondial, l'autre, le tout petit. Donc, je me demande si le lien social, comme on dit, le dialogue humain et relationnel, ont gagné ou perdu avec le web. Vous disiez quand même que globalement, on a plutôt gagné dès lors qu'on continue à, heureusement d'ailleurs, à avoir des rencontres, y compris festives, y compris dans les immeubles, en famille, etc. Je pense à ce week-end de Pâques, Patrice Fléchier.
Oui, absolument. Si on prend le phénomène, qui est le grand phénomène très récent des réseaux sociaux, une des choses qui est intéressante dans les réseaux sociaux, c'est que je vais chercher de l'information, je vais chercher le conseil auprès d'un certain nombre de gens qui sont sur le net. Hein. Alors, ces gens, bon, bien sûr, dans certains cas, ce sont des inconnus, mais quand on regarde un peu finement, on s'aperçoit que, pour l'essentiel, hein, ce sont malgré tout des proches.
Des gens du premier cercle ou du deuxième.
Absolument.
Oui. Oui, Dominique, la dimension de découverte, il ne faut absolument pas la nier. En même temps, ceci, vous savez, Facebook, c'est comme le chasseur français l'autre fois, c'est-à-dire que c'est des petites annonces et on cherche. Ce qui est intéressant dans Facebook, qui ne rejoint que 200 à 250 millions d'internautes dans le monde, c'est pas grand-chose. Hein. Nous, on raisonne quand même en pensant toujours qu'il y a des milliards de gens. On est quand même 6 milliards et demi sur Terre. Je rappelle toujours ce chiffre. Il y a 4 milliards et demi de postes de radio, 3 milliards et demi de postes de télévision, un peu plus d'un milliard d'ordinateurs. Donc, si vous voulez, la planète entière n'est pas sur Facebook. Il faut quand même relativiser. Par contre, il y a plus de 2 milliards de téléphones portables, mais c'est essentiellement fait pour se parler parce que les êtres humains se parlent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si ces réseaux sociaux, d'abord, le mot était très étonnant. Réseau, il renvoie à la technique, et social, il renvoie aux rapports humains. Donc, on est toujours dans cette dualité. Mais c'est surtout que là, il y a une naïveté invraisemblable. On n'arrive pas à faire comprendre aux jeunes qui sont sur Facebook ou qui utilisent ça que leurs informations, elles laissent une traçabilité extraordinaire. Et tant qu'on n'a pas résolu le problème politique, par manque de volonté, de qu'est-ce qu'on fait de ces informations, combien de temps elles sont gardées, comment elles peuvent être utilisées par d'autres, dans d'autres fichiers, on est sur un problème politique gigantesque que n'arrête pas de dénoncer toutes les commissions nationales informatiques, et les jeunes et les adolescents sont dans un mythe d'une liberté sans contrainte, et là, il faut, si vous voulez, Internet ne sera adulte que le jour où on acceptera de bonne foi d'avoir une réflexion critique contre Internet. Et moi, je précise une chose, j'ai sorti un livre il y a 10 ans qui s'appelait Internet et après, il y a 10 ans. À l'époque, on me traitait de... Je ne me souviens pas... J'oublie le nom. Parce que j'osais critiquer Internet. On disait, mais quand même, comment est-ce que tu peux critiquer le progrès technique? Mais j'ai le progrès technique, il fait du mal. Et vous avez le même problème entre ceux qui disaient, mais attendez, le libéralisme absolu est quand même porteur d'extraordinaires contraintes. Là, nous avons une crise économique et financière gigantesque. Tous ceux qui avaient dénoncé les limites du libéralisme sont aujourd'hui entendus. Pour la technique, personne n'est technophobe dès lors qu'on critique. Il faut quand même réfléchir à ce que représentent ces outils dans les rapports humains et dans les rapports politiques.
Avant le prochain appel, question peut-être pour vous, Serge Habitboul, c'est Clément à Angers qui dit « Mais est-ce si neutre si l'idée et le besoin du web sont quand même nés de chercheurs scientifique pour d'autres scientifiques et non pas germé dans un milieu littéraire, artistique, journalistique ou sociologique. C'était quand même avant tout un instrument d'ordre scientifique, Serge Habitboul. C'est important à vos yeux ?
C'est important parce que c'est une... Le point de départ, c'est comment on met en commun la science, comment on met en commun des connaissances. Le point de départ, c'est vraiment ça. C'est les gens qui ont fait ça au début ne pensaient pas, n'imaginaient pas que ce serait un outil à la disposition de tout le monde. Ils voulaient partager des connaissances. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce partage des connaissances, on le retrouve à tous les niveaux, aussi bien chez la personne qui fait une petite association dans son coin et qui veut partager des compétences.
Qui fait de la généalogie comme l'écrit un internaute, effectivement.
Mais c'est important. Le point de départ, c'est l'idée de cette connaissance universelle qui est d'un partage entre les internautes.
Salia, bonsoir, vous êtes à Paris, vous avez dit au standard à l'instant, je ne pourrais pas me passer d'Internet, je vous laisse poursuivre. Que faites-vous dans la vie, Salia ?
Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, j'ai d'innombrables casquettes. Hein. Je suis enseignante, je suis auteure d'ouvrages. Je suis également présidente d'une association de locataires. Je prépare une exposition d'ici peu de temps. Et honnêtement, autant à une époque, je me disais, oh là là, mon Dieu, je ne pourrais pas, jamais je m'y mettrais. Bon, vous savez, vraiment, j'appartenais à vieille école, le papier, les bibliothèques, etc., les centres de recherche. Et maintenant, c'est plutôt l'inverse, où pour moi, c'est un véritable gain de temps. Et je pense que je ne pourrais pas du tout m'en passer. Hein.
Merci pour le témoignage. Vous êtes un certain nombre à dire ça d'ailleurs, à dire c'est vrai, vous parlez de 20 ans, mais pour moi, alors certains donnent une date précise, ça a basculé grosso modo autour de l'an 2000, il y a une dizaine d'années. C'est aussi ce qu'on a constaté, Patrice Flichy, dans les différentes enquêtes ou travaux effectués là-dessus.
Absolument, je dirais que quand le web donc démarre, en fait c'est 20 ans, hein, pendant les 4 ou 5 premières années, ça reste uniquement limité au monde universitaire, hein, ce n'est que vers 93-94 hein, qu'on commence à en parler dans le grand public, au moment où Internet rentre vraiment dans le grand public. Hein, et donc en 2000, hein, il commence à y avoir une diffusion importante, avec quand même une caractéristique qui est, je crois qu'il faut s'y signaler, c'est que si en 2000 on commence à avoir plus de sites commerciaux que de sites non commerciaux, avant c'était des sites notamment universitaires ou des sites associatifs, par contre, le contenu qui est consulté est encore majoritairement un contenu non commercial. Et donc je crois que là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est une articulation finalement entre, d'une part, le monde des médias, le monde universitaire et le grand public.
Dominique Volton va intervenir, mais comme Jean-Marie, me dit-on, à portable, vous êtes à... Je n'arrive pas à lire. En tout cas, bienvenue Jean-Marie, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors oui, donc j'ai pas de portable, en fait je vous appelle d'un fixe.
Ah bon, d'un fixe.
Et depuis le Lot-et-Garonne. Donc moi simplement je voulais faire une remarque, c'est que quand on est un peu en milieu rural comme moi, Internet permet d'avoir accès à tout un tas de sources d'informations auxquelles on aurait extrêmement difficilement accès avant, parce qu'avant il fallait aller en ville et puis bon des fois la ville c'est un peu loin, les bibliothèques, tout ça c'est compliqué. Là vraiment ça facilite un accès à l'information, moi je trouve ça c'est absolument génial. Voilà.
La contrainte géographique, sociale, sociologique, le mode de vie, les conditions de vie, Dominique Volton.
Oui, bon, c'est vrai que c'est une ouverture sur le monde. C'est aussi un contre-pouvoir. Ça a été dit dans deux, trois endroits. Ceci dit, il faut quand même pas. On sort pas de la jungle. Hein. Il y a quand même toujours une espèce de vision. On a l'impression que chaque technique ouvre un paradis qu'avant il n'y avait rien. Il y avait quand même, je répète 100 fois, de la presse écrite, de la radio, de la télévision, du courrier, des déplacements, les gens. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut quand même relativiser. Je dis ça pour des milliards de gens qui ne sont pas sur Internet. On se demande, si je puis dire, comment ils peuvent vivre, inventer, créer par rapport à tout ce. Donc il faut quand même relativiser. Et bon, première chose. Deuxième chose, c'est un contre-pouvoir, ça c'est sûr. Et ça veut dire que ça met en cause, en gros, la difficulté de nos sociétés à gérer l'économie, la politique et l'information. Mais moi, je reviens parce que là, on n'entend que des choses positives. Je voudrais quand même souligner plusieurs choses qui sont des enjeux fondamentaux pour l'avenir. Un, la traçabilité, c'est pas réglé. Deux, la gratuité, c'est pas réglé. Qui paye ? Une information n'est jamais gratuite. Si elle est accessible gratuitement, ça veut dire que quelqu'un la paye. Et la plupart du temps, c'est la publicité. Deuxièmement, quand on dit c'est un accès universel à l'information, c'est vrai. Mais si vous n'avez pas les connaissances préalablement pour gérer ces informations, vous pouvez pas. Quatrième chose, si vous êtes isolé, c'est pas ce qui vous socialisera. Et dernière chose, parce que j'appartiens au CNRS, je peux vous dire que c'est nous les scientifiques qui avons inventé, ou avec les militaires, parce que faut jamais l'oublier. Mais on s'échange entre nous dans une communauté qui a les mêmes codes culturels. On n'a jamais jamais fait une invention scientifique par Internet. Autrement dit, la créativité ne se fait pas par là. Il faut simplement être capable de relativiser ce qui est possible dans une communauté. Si vous l'étendez un espace plus large, vous retombez sur les mêmes problèmes théoriques qui ont été posés par la généralisation de la presse écrite, par la généralisation de la radio et de la télévision. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de sortir d'une communauté? Si vous voulez, la force d'Internet, c'est un réseau mondial à partir des gens qui s'intéressent à la même chose au même moment. Mais c'est sa faiblesse. Le génie de la radio et de la télévision, c'est quand vous comparez les deux systèmes de communication, c'est que la radio et la télévision, ça s'adresse à tout le monde. Et une société, elle a besoin à la fois d'avoir des médias individualisés sur Internet, mais préalablement des médias collectifs, sinon vous avez le bazar social.
Quelque chose de trop clivant. Patrice Fléchy et ensuite Serge Habitboul. Patrice Fléchy.
Oui, un mot sur la gratuité. Oui. Je crois que contrairement à ce que dit Dominique Volton, soit une partie des sites sont financés par la publicité, mais aussi toute une série des sites sont construits par les internautes eux-mêmes. Mmh. Je crois que le phénomène de Wikipédia que j'évoquais tout à l'heure, le phénomène des blogs montre que là, on a un nouveau mode de production de l'information qui est, je crois, profondément original. Alors, quand Dominique nous dit également qu'on n'a jamais produit de science à travers Internet, c'est partiellement faux.
On échange des
informations. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de collectifs scientifiques qui ne pourraient pas fonctionner s'ils n'étaient pas reliés par Internet.
Mais attendez, comment ils ont fait jusqu'à 30 ans? Il faut relativiste et dire une chose. Je m'excuse. Sur la gratuité, on a eu la même question avec la radio, les radios locales et la télévision locale. Chaque génération, dans une invention d'une technique, a une utopie politique généreuse qui consiste à dire nous allons bousculer le système capitaliste et inventer quelque chose. Quand vous voyez le bilan des radios locales 20 ans après, elles sont rentrées dans des groupes. Même chose pour les télévisions. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas une possibilité de information gratuite sur Internet, mais la bataille politique pour le modèle économique d'Internet dans ses rapports avec les autres médias n'a même pas commencé. Autrement dit, c'est une vraie question qui est devant nous.
Serge Habitboul.
Donc, Dominique Volton parle très très bien de tous les risques et de tous les dangers d'Internet. On en est conscient, on les vit tous les jours. Oui. Par contre, moi, je vais pousser la barre encore plus loin. Les 20 ans qu'on a vécu, c'était très bien. Il y a plein de trucs qui arrivent qui vont révolutionner encore plus notre façon de concevoir Internet et notre façon d'interagir. C'est-à-dire que les nouvelles technologies ne vont pas être liberticide, au contraire, elles vont permettre aux gens de se prendre en main et de gommer certaines des dérives de départ qui sont au départ, qui viennent du fait que la plupart du temps, nos informations sont gérées par des sites commerciaux. On donne ces données privées à Facebook, vous en parlez tout à l'heure, ou à Google, et c'est dangereux. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent avec le pair-à-pair et des choses comme ça, et les révolutions qu'on peut attendre d'Internet sur les 10-20 ans à venir vont résoudre certains de ces problèmes, vont en poser d'autres. Il ne faut pas se leurrer.
Alors justement, là-dessus, j'ai beaucoup de courriels, ça se comprend, sur ce qui va arriver, comme vous dites, Yves. Il dit, si je vous écoute, j'ai du mal à comprendre s'il s'agit d'une fin d'adolescence ou d'un début d'âge adulte, mais à quand véritablement l'âge mûr? David, dans Lyon, la parole, l'imprimerie, le web, il n'a pas cité la radio comme Dominique, quel pourrait être le prochain stade de la communication entre les hommes? Et puis Scotty en Martinique, comment selon vous va évoluer ce web? A-t-on déjà une idée de ce qui sera possible en 2029 ou 2030? Voulez-vous continuer, Serge Habitboul?
Je veux bien continuer, oui. D'abord, faire des prévisions, c'est extrêmement dangereux parce que le web va beaucoup plus vite que tout ce qu'on a prévu et change les données pratiquement en permanence. On voit arriver tous les 4-5 ans des trucs qui sont franchement nouveaux. Donc je ne m'hasarderai pas à faire des prévisions sur une dizaine ou une quinzaine d'années. Par contre, ce qui est sûr, ce qu'on voit arriver déjà aujourd'hui, c'est que les internautes sont en train de se dégager de tous les sites commerciaux et toute la gestion de l'information par d'autres. Donc aujourd'hui, ça commence à devenir possible. C'est encore un peu compliqué, mais ça simplifie de plus en plus. Et l'idée, c'est de récupérer toute cette information. Le problème, ce n'est pas Facebook ou Google. Le problème, c'est vos informations personnelles. Pour prendre juste l'exemple, pour moi, qui est un exemple particulièrement important, la perte de vos informations privées en les distribuant à des gens que vous ne maîtrisez pas, c'est clairement un danger. Avec les nouvelles technologies du pair-à-pair notamment, ça devient contournable. C'est-à-dire que vous pouvez garder le contrôle de votre information. Et ça, c'est quelque chose qui va résoudre en partie certains des problèmes. Ça en posera d'autres. Je n'essaie pas d'avoir une vision angélique de ce qui va se passer. Ce que je dis, c'est que cette révolution est en train d'arriver. Il faut faire tout ce qu'il faut pour bien la maîtriser.
Alors, comment les choses vont-elles évoluer? Si elles vont évoluer, le point de vue maintenant de Patrice Fléchy, on n'oublie pas Dominique Volton. Patrice Fluchy.
Je crois que le grand changement qui est en train d'apparaître aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans un Internet de masse. Hein. Un Internet de masse, c'est vraiment le changement considérable. Hein. Alors, soit il y a un peu moins de PC connectés à Internet que d'appareils radio, mais aujourd'hui, il y a environ 60% des Français qui utilisent Internet. Hein. Il y a plusieurs centaines de millions de Chinois. Hein. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est partagé sur l'ensemble de la planète. Je crois qu'un autre élément fort a été évoqué, c'est le fait que tout ça est archivé. Alors, effectivement, il y a ce problème de traçabilité, le fait que ça soit archivé fait qu'on n'ira pas les mêmes dérives que pour la radio. Hein. Pourquoi on a eu des dérives pour la radio ? Parce que finalement, l'espace hertzien était limité. Hein, et que si on donne une fréquence à France Inter, on ne peut pas la donner à une radio associative. Je veux dire, sur le net, il n'y a pas de limite. Hein. Donc finalement, il y a une multitude de sites, et certains sites, finalement, appartiennent à des institutions associatives qui réussissent à avoir une vraie visibilité sur le net.
Dominique Voltan.
Oui, ce que je suis frappé toujours de constater, que, et ça dure comme ça depuis 15 ans, donc ce n'est pas neuf, dès qu'il s'agit de la radio et de la télévision, vous avez des critiques, des suspicions, des procès d'intention. Dès qu'il s'agit d'Internet, c'est « small is beautiful », tout est formidable. Moi, je viens de sortir un numéro de ma revue Hermès qui s'appelle « Traçabilité réseau », c'est fait par des scientifiques. Ça vient de sortir au mois de juin. Je vous garantis que les scientifiques ne sont pas les premiers à s'apercevoir, et ça, comme j'appartiens au CNRS, ça traverse tous les départements du CNRS, ça pose d'énormes problèmes. J'en prendrai un simple, deux. L'Internet est une activité sociale comme n'importe quelle autre activité. Il faudra qu'elle soit régulée. Elle n'est pas régulée. Et dans la crise financière que nous avons traversée, dont nous commençons qu'à payer maintenant les conséquences économiques et sociales, évidemment, Internet a joué un rôle énorme. On sait très bien dans la spéculation. On sait que plus de 60% des recettes d'Internet sont venues sur du sexe et de tout le reste. Donc ça, il faut sortir d'une vision idéaliste d'Internet, c'est-à-dire c'est des militants, c'est des scientifiques, c'est des gens gentils. Oui, c'est vrai. Mais le gros de la manip, c'est pas ça. C'est un système d'information automatisé qui permet de faire réguler ou de déréguler une économie mondialisée. Et si on veut qu'Internet corresponde à ce qui est évoqué là par mes camarades et mes néanmoins collègues, il faut à ce moment-là qu'on fasse une bataille politique, parce que sinon, par définition, ça ne sera pas régulé tout seul. L'autorégulation ne suffit pas, surtout à l'échelle mondiale comme ça. Et donc, c'est pas que je voudrais dire, je ne comprends pas pourquoi cette technique de communication devient d'un seul coup celle qui est investie de toutes les qualités, de toutes les utopies. Oui, toute l'histoire des techniques, de la presse écrite à la radio et à la télévision, est investie à chaque fois d'un rêve de communication humaine. Et à chaque fois, comme la bataille politique n'est pas menée, et celle-ci est plus difficile à mener, justement parce qu'elle est mondiale, parce que tout le monde dit « je me contrôle moi-même », et ce qui m'intéresse du point de vue de l'anthropologie, c'est pourquoi les êtres humains n'ont aucune espèce de distance critique sur cette technique qui n'en était une parmi d'autres, et sont prêts à confier tout, y compris toute leur vie privée, toute leur intimité, en n'ayant pas une seule conscience que, par définition, cette activité sociale, elle n'est pas pure, parce que les êtres humains ne sont pas purs. Si vous êtes un salaud avec Internet, vous serez un salaud avec Internet. Ce n'est pas Internet qui vous met meilleur. Et ce n'est pas les quelques scientifiques du monde qui vont faire, qui ne sont pas des anges non plus, il faut bien le reconnaître tout de même, parce qu'il suffit de voir la compétition entre nous pour ne pas être idéaliste. Donc je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup, tout est formidable, tout est génial et tout va s'autoréguler. Non, si on veut que ce soit une démocratie Internet, il faut mettre de la politique là-dedans.
Vanessa, bonsoir. Vous êtes près de Foix, en Ariège. Vous n'avez pas Internet, vous avez le téléphone. C'est pourquoi vous êtes au bout du fil. On vous écoute, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Donc voilà, moi je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai plus de télé non plus depuis une quinzaine d'années.
C'est un choix, c'est une contrainte.
C'est un choix, tout à fait délibéré. L'absence de télé ne m'a jamais empêché de rester informée. On parle à la radio, les journaux. Par contre, je ressens de plus en plus de difficultés sur des plans tout à fait pratiques au niveau consommation par rapport au fait de ne pas avoir Internet. Je sens que mon banquier me pousse de plus en plus à aller sur Internet plutôt que consulter les relevés de compte. Pareil pour l'immobilier, tout ce qui est des recherche de maison, on est tout le temps orienté sur des sites. Donc moi, j'aimerais pouvoir garder cette liberté de ne pas avoir d'ordinateur. Et je me demande si dans les 5 à 10 années à venir, ce sera encore possible. Voilà.
Oui,
Dominique.
Moi, je me pose une bonne question. Même quand j'entends les radios, les télévisions qui systématiquement renvoient sur leur site, je dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte quand même qu'il y a... Alors, admettons qu'il y ait 50% des Français qui soient connectés, même 60%, peu importe, et les autres. Et vous n'êtes pas forcément tout le temps connectés. Donc, première question. Deuxième question, la force d'Internet, il faut le dire, c'est l'information-service. C'est-à-dire, vous savez ce que vous cherchez, et vous allez le trouver.
Vous allez le...
Mais, si je puis dire, la connaissance humaine, le rapport au monde, c'est 60% des choses, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Autrement dit, la recherche au hasard est une liberté extraordinaire sur Internet, mais elle repose la question des connaissances préalables. Donc, nous ne nous trompons pas, c'est utile pour tout ce qui est information-service, c'est discutable pour tout ce qui est information news, parce que vous ne la validez pas, les journalistes, à trois quarts du temps, donc on trouve un palais de rumeurs dans Internet. Et pour l'information-connaissance, c'est-à-dire ce qui est les bases et les banques de données, là, ça demande de la compétence, une bataille politique pour qu'elle soit gratuite, cette information, parce que mon voisin est optimiste, mais moi, je connais en même temps la croissance des industries de la connaissance. Et je peux vous résumer le problème pour nous, scientifiques. On produit de l'information la plupart du temps gratuitement, qu'on soit universitaire ou scientifique. Et les trois quarts du temps dans le monde, l'économie de la connaissance fait que nous la rachetons très cher par des entreprises qui font ça. Donc, si on veut que ce reste gratuit, eh ben, la bataille, il va falloir la mener de manière dure.
Alors, votre voisin, c'est Serge Habitboul. Il veut répondre également à Vanessa de l'Ariège.
Donc, moi, la seule chose que je vais répondre, c'est que si c'est un choix de ne pas vouloir avoir accès à ce média, il n'y a rien à dire, c'est votre liberté. Par contre, il y a beaucoup plus grave, c'est tous les gens qui n'y ont pas accès parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et donc ça, je pense que...
La fameuse fracture
numérique. Donc là, je pense que ça, c'est un sujet beaucoup plus grave que d'essayer de faire de la régulation, comme on a pu voir récemment dans la loi. Je pense que la fracture numérique, là, c'est un vrai problème à adresser et qu'on doit résoudre.
Patrice Fluchy, votre point de vue?
Je crois que cette question de la fracture numérique est effectivement centrale. Il y a une composante économique, mais je crois qu'il y a aussi une composante d'apprentissage. Hein. Il est certain que, par exemple, pour des personnes plus âgées, hein, l'apprentissage de ces technologies prend encore du temps. Hein. Donc, il y a une composante, comme toujours, technique et sociale. Hein. Il y aura de nouvelles solutions techniques, alors qu'on n'a pas abordé. Hein. Il est certain qu'accéder à l'information du web sur des téléphones portables hein, peut être, pour un certain nombre de gens qui ne sont pas connectés, une solution. Hein. Et puis, tout cet apprentissage qui se fait dès l'école, qui doit se faire également pour les personnes âgées.
Bonsoir, Marc. Vous êtes près de Clermont-Ferrand.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute, Marc.
Voilà, moi je voulais attirer l'attention de tout le monde sur l'extraordinaire rapidité de transmission de l'information qui permet notamment enfin, dans le commerce, l'industrie, etc., de faire aboutir des projets ou des inventions qui n'auraient jamais pu aboutir autrement parce que là, grâce à Internet, on peut transférer immédiatement des textes, des images, des choses entre collègues qui peuvent être aux quatre coins de la planète. Et ça donne donc une force de concrétisation et de rapidité. Si on pense même au Telex, les choses comme ça, c'était en noir et blanc, c'était lent, etc. On prenait l'avion, on faisait des réunions. Grâce à Internet, on réduit complètement tous ces temps perdus, tout en gardant la même qualité de communication, technique, imagée, etc. Donc cette rapidité, cette efficacité, fait pour moi de Internet un outil, vraiment, on peut dire un outil technique, hein, qui permet de réaliser des choses qu'on n'aurait jamais pu faire autrement. Alors, je ne sais pas si cette rapidité est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, indéniablement, l'industrie mondiale profite d'Internet aussi dans son efficacité.
Alors, Marc, on va vous répondre sur l'outil, sur la rapidité. Si vous le permettez, avant que je donne la parole aux intervenants, je vais compléter, parce que vous êtes très nombreux à vouloir... vous exprimez là-dessus. Tout à l'heure, un de nos invités disait sur le net, il n'y a pas de limite. Eh bien, vous répondez, oui, mais attention, il y a des limites dans le corps humain. François, dans la Creuse, écrit, le cerveau humain a quand même des limites. Ma grand-mère disait qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Alors, que penser du déphasage de plus en plus énorme entre la vitesse des technologies de communication par le net et puis les capacités humaines, les nôtres, d'absorption et d'analyse du flux de communication et d'information? Je trouve ça vertigineux. Et j'ai beaucoup de réactions, de courriels, c'est formulé de façon très différente, mais enfin, qui disent un peu ça. Cet auditeur, à l'instant, parlait de rapidité. D'autres insistent plutôt sur l'aspect technique, mais manifestement, l'homme, la machine, le fossé a l'air de s'élargir. Là-dessus, trois points de vue, Dominique Volpin.
Trois points de vue, vous posez une question qui est la plus importante, indépendamment de la question politique, de la réglementation pour les libertés privées et publiques. Vous posez la question la plus importante, qui est un débat qui dure depuis, en gros, essentiellement, la fin de la Première Guerre mondiale, parce qu'on a vu ce que la technique avait été capable de faire pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a un débat constant entre est-ce que la technique est un progrès pour l'homme et à partir de quand est-ce qu'elle devient une tyrannie. Et c'est vrai que c'est très intéressant pour Internet, parce que tout à l'heure, mon voisin a dit à juste titre le problème principal, enfin son point de vue, c'est qu'il faut réduire les inégalités d'accès, mais là, c'est plus important que la régulation politique. Non, on pourra réduire les inégalités d'accès, mais plus il y aura de gens qui accéderont à Internet, plus la question de la régulation politique se posera. Alors sur la question qu'a soulevé l'auditeur, oui, c'est sûr que quand vous êtes dans une entreprise, par définition, l'échange d'informations va plus vite. Mais il faut commencer à dire que les mails qui sont perçus par un individu au départ comme un bonheur deviennent une tyrannie absolue. Parce que vous êtes connecté quasiment 24-24 et du coup, vous n'avez plus de distance. Autrement dit, pour des tas de cadres et même des employés, vous avez une espèce de tyrannie de l'information. Donc il va falloir arriver à réguler entre oui, c'est beaucoup plus pratique, mais sans éviter la tyrannie. Deuxièmement, quand ce monsieur dit c'est formidable parce que ça réduit les déplacements, ben non. C'est ça qui est extraordinaire. Les hommes n'arrêtent pas d'inventer des techniques de plus en plus performantes et n'arrêtent pas de voyager de plus en plus. Parce qu'une fois que vous avez échangé toutes les informations avec vos voisins ou vos partenaires ou vos concurrents, quand vous arrivez à une décision importante, et c'est vrai dans l'économie comme c'est vrai dans la politique, les êtres humains sont ainsi faits qu'ils ont besoin de se déplacer pour les négocier. Et troisième chose que je voulais dire, c'est que cette personne dit qu'il n'y a pas de limite, et ben il va falloir en introduire. C'est-à-dire qu'on ne vit pas 24-24 dans l'information, on est surtout dans la communication, dans la relation, dans le travail, dans la vie privée, etc., etc. Et donc, il y a une espèce d'illusion qu'il va falloir dissiper, de croire que si vous êtes interactif constamment, votre vie est meilleure. Ça, c'est une illusion technique.
Des capacités de l'homme à celles de la machine qui, elle, avance. Serge Habitboul, commentaire, et puis on donnera la parole à Patrice Pichy.
Il y a deux aspects là-dedans. C'est très compliqué. Il y a un premier aspect qui est la machine est là pour nous aider. Les outils, Internet, le web, sont là pour nous aider. Donc, ils nous aident. Ils sont de mieux en mieux faits. Ils sont de plus en plus utiles. Par contre, il faut apprendre à s'en servir. Pour en venir à un point très précis qui était les déplacements, avec le développement durable, les déplacements pour un oui ou pour un non, ça va disparaître. Et on sera bien content de trouver toute cette technologie le jour où on pourra plus prendre son avion pour aller faire une réunion à Pétaouchnok pour rien du tout. Donc ces outils-là seront nécessaires. Et l'interaction entre les nouvelles technologies et le développement durable sont très intenses à beaucoup de niveaux.
Juste un commentaire là-dessus. Il y a une contradiction qui est très intéressante. Les nouvelles technologies, c'est de la vitesse. Le développement durable, c'est de la lenteur, de la connaissance accumulée sur des siècles par des populations. Et cette contradiction, si vous voulez, c'est une vision très occidentale que nous avons, de s'imaginer que si on transfère vite les informations, les économies vont développer. Ben non, parce que les informations transmises, elles font de la spéculation mondiale dans les mêmes banques de ces pays. Il y a développement durable, il ne faut quand même pas l'oublier, hein, d'une part. Et d'autre part, si on veut du développement durable, il faut sortir de cette vitesse pour retrouver de la lenteur qui est justement... L'homme occidental, il est fasciné par la vitesse et on est excellent. Mais on risque d'en mourir si on n'est pas capable d'avoir une vision un peu plus critique.
En même temps, je le signale simplement, j'ai plusieurs internautes qui mettent le doigt là-dessus en disant avec Internet, surtout à haut débit, économie de kérosène, parce qu'effectivement, on n'est plus forcément... C'est plus compliqué que ça, mais enfin, obligé d'être présent. Patrice Fléchy.
Alors, est-ce que ces technologies vont de plus en plus vite? Est-ce qu'elles vont nous dépasser? Ça ne me paraît pas du tout certain. Moi, ce qui me frappe, c'est l'étonnante capacité d'adaptation des internautes. On peut en prendre deux exemples. On évoquait tout à l'heure Facebook. Moi, je suis étonné de voir que les jeunes, effectivement, ils savent que leurs données sont archivées et très, très vite, ils modifient leur présentation de soi. Ils savent jouer avec cet outil. Et ils savent bien que ce qu'on dit sur Facebook, c'est important, que éventuellement
c'est
un employeur...
C'est important avec un DRH, voilà peu.
Absolument, et que donc la présentation que je vais faire de moi, il faut que je sache qu'un employeur éventuellement la regardera.
Oui, mais existe...
Attends, tu permets si on regarde les blogs, regardons les adolescents. Quand on regarde comment ils font leur blog, il s'agit de dispositifs multimédia qui jouent avec l'image, qui jouent avec le son. Ces adolescents n'ont pas appris. Ils ont appris avec leurs copains. Ils n'ont pas suivi des cours multimédia. Donc cette capacité d'apprentissage par les amis, par les pairs, on évoquait le pair-to-pair qui est à la base d'Internet, je crois, est un grand succès d'Internet.
Ça, c'est vrai. Il nous reste 30 secondes.
C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Ceci dit, exister, ce n'est pas se présenter. Autrement dit, il y a une question qui est posée par ces systèmes d'information qui permet à soi-même de s'exprimer, de se raconter, de se mettre en scène, qui pose une question anthropologique qui est devant nous, c'est-à-dire exister, ce n'est pas seulement se présenter. Donc, par conséquent, exister au bout d'un moment, c'est sortir de l'écran, sortir du réseau, être capable de vivre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que d'être capable d'être un bon internaute, même si c'est vrai, il y a des émancipations possibles.
dans ces réseaux. Ce sera le dernier mot pour ce soir. Vous écoutez France Inter et il sera 20h dans 30 secondes. Demain soir, au téléphone sonne, encore 20 ans, j'y peux rien, c'est un hasard de l'actualité. 20 ans après ce qui devait être le début des manifestations de la place Tiananmen et surtout donc de la répression du printemps de Pékin. Question demain soir sur la Chine, des enjeux économiques au défi des droits de l'homme qui demeurent. Merci à nos invités, bonsoir, à demain.